Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Women of the Seas, le podcast des aventurières de la mer.
Il y a quelque chose quand on est une femme et surtout une jeune femme dans la course, comme on est peu nombreuses, on est tout de suite repérées. Ben moi, j'avais ce côté à vraiment crocher dedans. Moi, j'ai débarqué là-dedans. C'est vrai que mes premières années mini, moi, je dormais dans ma camionnette. Je m'étais acheté une vieille camionnette. J'avais largué mon appart à Marseille. J'étais venue avec ma camionnette et le mini que je venais d'acheter. J'étais venue dans le Morbihan, à la Trinité. Je ne connaissais pas un chat. Et je passais mon temps à préparer mon bateau, à naviguer. Déjà très solitaire dans le mode de fonctionnement. Et ceux qui me voyaient, ils se disaient waouh, elle en veut quoi. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'aussi on m'a repérée et qu'il y a des gens qui me disaient ah ouais, mais tu serais bien toi sur le Vendée. À une époque où moi c'était pas du tout dans mes représentations, dans mes projections.
Isabelle Jaschke, 44 ans, navigatrice en solitaire lors du dernier Vendée Globe à bord de l'IMOCA MACSF.
Ma grand-mère vivait au bord d'un lac et moi, je voyais des enfants et des adultes qui naviguaient sur le lac, sur des petits voiliers. Et ça m'a fait rêver dès ma toute petite enfance. Et je rêvais d'avoir mon optimiste, je rêvais de traverser le lac toute seule. C'était l'aventure. Et puis genre, je rêvais de ça le soir quand je me couchais. Quoi. C'était ouais, chouette, je vais me coucher, comme ça je vais pouvoir aller partir dans mes tripes. Et puis, j'ai fait un petit peu de dériveur quand j'étais petite, mais pas beaucoup. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis un peu passée à côté de ça. Et du coup, c'est resté à l'état de rêve. Puis, j'ai vécu mon adolescence. Et une fois que j'ai passé mon bac, ça m'est revenu de manière assez brutale, comme ça, l'envie de naviguer. J'ai fait un stage au Glénan pendant que je faisais mes études de lettres. J'ai eu un coup de foudre pour la mer. J'ai fait un deuxième stage et puis... Un an plus tard, je m'embarquais sur une transat et puis je décidais que j'irais plutôt faire du bateau. Je savais pas trop ce que j'avais envie de faire avec la littérature, mais j'adorais ça. Après, je me suis embarquée dans une formation pour être skipper, pour être monitrice de voile. Et après, tout s'est fait au fur et à mesure. C'était des enchaînements. Y a rien qui était prévu dans mon parcours, vraiment rien. C'est des coups de cœur. Je suis passée d'un coup de cœur à l'autre et puis est arrivée la Mini Transat qui a été le début de ma carrière de navigatrice en solitaire. Quand j'ai acheté mon premier Mini, j'avais 26 ans. Quand j'ai fait la Mini, j'avais 28 ans. C'était vraiment juste une aventure. Hein. Moi, je trouvais que c'était dingue de traverser l'Atlantique sur un bateau comme ça, en solitaire. Le fait que ce soit en course, c'était pas le truc déterminant quelque part. Et puis en fait, je me suis prise au jeu. Très vite, je me suis rendu compte que moi qui pensais que j'avais pas trop d'esprit de compétition, en fait, je me suis rendu compte que si, que ça m'allait bien la compétition. et que j'adorais ça, quoi. Mais vraiment, je me suis jetée là-dedans. Ça a été direct la passion. Donc, j'ai fait ma première mini transat. Ça s'est bien passé, vu que j'étais à fond. De toute façon, quand on aime quelque chose, ça se passe bien. Du coup, j'ai trouvé des sponsors, parce que bon, c'est quand même toute une histoire hein, pour pouvoir financer des projets comme ça. J'ai trouvé des sponsors, j'ai pu repartir sur un deuxième projet de mini transat qui s'est super bien passé, où j'ai fait construire un bateau. J'étais dans les favoris au départ de la mini en 2007, j'ai gagné la première étape. Et du coup, après, de fil en aiguille, ben, mes sponsors ils m'ont suivi, ils m'ont fait confiance. Et puis, j'ai pu continuer en Figaro avec là l'objectif de me professionnaliser, parce que j'avais bien conscience que la mini, ouais, il y a vraiment ce côté tremplin, c'est-à-dire qu'on peut venir en ayant un tout petit bagage et on peut faire des grandes choses, hein, la preuve, on peut gagner. Mais après, le Figaro, c'est autre chose, c'est vraiment la... C'est à mi-chemin entre la régate et la course au large. C'est le plus haut niveau sportif. Je pense qu'en Figaro, c'est là qu'on va trouver les meilleurs marins de la course au large, hein, plus encore que sur le Vendée Globe, même si le Vendée Globe fait plus parler de lui. Et donc, moi, j'y suis allée pour me professionnaliser, pour apprendre tout ce que j'avais encore à apprendre. Le Vendée Globe, c'est un tour du monde, en course, en solitaire, sans escale et sans assistance. Et pour les gens qui font de la course au large, c'est un peu le Graal, quoi. C'est un peu l'Everest des mers, pour de vrai. Maintenant que je l'ai vécu, je pense que c'est pas juste une expression. Au début, ça me paraissait inaccessible. Et puis, en fait, progressivement, je me suis rendu compte que ben, si, je pouvais très bien avoir ma place là-dedans, que j'avais les capacités. Il a fallu quand même un paquet d'années pour prendre confiance dans toutes mes capacités et surtout, physiquement, pour avoir confiance dans le fait que je pouvais manœuvrer un gros bateau. Parce que c'est quand même un bateau qui fait un peu plus de 18 mètres. C'est, ben, clairement, c'est très physique, hein. Ça n'a rien à voir avec le mini et bah quand on a un petit gabarit comme moi, je crois qu'il y a aussi des petits freins intérieurs qui sont pas toujours conscients. Et puis donc on était en 2015, en fin de saison, j'ai un copain qui s'appelle Yves Leblévec et qui skippait un trimaran. En fait, il venait juste d'acheter son premier ultime, qui me propose de venir faire une navigation en fin de saison avec lui. Une sortie comme ça de quelques heures. J'avais peu d'expérience sur des bateaux comme ça. Je me suis régalée et paradoxalement, sur le bateau, je me suis dit « Mais en fait, moi aussi, je pourrais faire ça. » Et je ne sais pas, c'est venu comme ça, quoi. Après, je me disais « Oh, quand même !» Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines plus tard, mon sponsor de l'époque et mon concurrent qui partageait le même sponsor, Alain Gauthier, m'ont proposé ensemble de préparer un projet Vendée Globe pour l'édition 2020. Donc voilà, ça s'est présenté à moi au moment où clairement, mais je n'en rêvais plus du tout, j'espérais rien. J'ai même été du coup très surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Mais il y a aussi un côté où j'étais prête, puisque en naviguant sur Actual, je m'étais dit, bon, en fait, moi aussi, je pourrais skipper un gros bateau. Donc voilà, c'est à la fois le truc qui était à la fois inattendu et en même temps tombé pile au bon moment. Pour participer au Vendée Globe, il y a une qualification à faire. Donc tout le monde doit faire cette qualification. Alors il faut faire une transat en solitaire. Il faut faire un certain nombre de milles en solitaire sur son bateau. Mais ça, je dirais que quand on prépare le Vendée... c'est rien, parce que de toute façon, on navigue énormément. Faut savoir qu'il n'y a pas de sélection au niveau sportif. Donc n'importe qui, il y a quand même des gens qui débarquent et qui n'ont jamais fait de course ou qui en ont fait un peu, puis qui ont complètement décroché et qui reviennent sur le circuit Vendée Globe. Et ça, c'est OK. S'ils font les qualifications, ils ont leur place, quoi. C'est vraiment un truc qui est ouvert à tous. Un IMOCA, c'est un bateau qui fait 60 pieds de long, qui a une jauge spécifique, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions, il y a une largeur maximum, une hauteur de mât, une profondeur de quille, qui sont déterminées pour que les bateaux se ressemblent à peu près. Et l'IMOCA, c'est le bateau avec lequel on a le droit de faire le Vendée Globe. On ne peut pas faire le Vendée Globe avec un bateau de 40 pieds. Il faut que ce soit un IMOCA et qu'il soit conforme à la jauge. Donc, mon IMOCA à moi, c'est un bateau qui a été construit en 2007 et qui a fait 4 fois le Vendée Globe. Il a terminé 2 fois en course, 1 fois hors course et 1 fois, il n'a pas terminé du tout. À l'époque où il a été construit, c'était le bateau le plus rapide et le plus regardé de la flotte. Et aujourd'hui, malgré son grand âge, ça reste un bateau hyper performant. Et puis avec la MACSF, on a décidé de l'équiper avec des foils, parce qu'aujourd'hui, les IMOCA qui vont vite, ils ont des foils, en gros. Et au départ de ce Vendée, mon bateau sur la liste, évidemment, c'était pas le bateau pour gagner, parce que les bateaux pour gagner, entre guillemets, c'est des bateaux qui venaient juste d'être construits, les bateaux de dernière génération, ou peut-être des bateaux de la génération d'avant, de l'année du coup du Vendée Globe 2016. Mais les bateaux qui ont déjà plusieurs générations, souvent, ils courent, comme on dit, en deuxième ou en troisième division. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que avec ce bateau, j'étais plutôt partie pour courir en deuxième division et je me suis retrouvée à un moment donné à courir en première division et j'aurais pu, à un moment donné, espérer terminer sur le podium. J'avoue que j'ai mis du temps à m'habituer à la vitesse du bateau quand il foil, aux sensations. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je repars, il faut me réhabituer. Si dans une course, je passe quelques jours où il n'y a pas beaucoup de vent et où le bateau il va tout tranquillement et d'un coup, le vent se lève à nouveau, il me faut toujours une transition pour me réhabituer. Parce que le bateau, quand il foil, il va vite et il tape. Ça paraît super chouette. Là, on se dit on est sur une Formule 1, on met le pied sur la pédale et puis ça accélère. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En mer, il y a toujours des vagues. Quand il y a du vent, il y a des vagues. Du vent sans vagues, c'est exceptionnel, ça arrive, évidemment, c'est l'extase. Mais ça, c'est quoi? C'est 10% du temps, même pas. Et en fait, sinon, il y a des vagues et le bateau qui se met à foiler, il avance très, très vite et il tape dans la vague en fonction de l'angle du vent. Au portant, il tape pas trop, mais au vent de travers, il tape beaucoup. Et c'est là qu'on va très, très, très vite. J'ai assez vite compris que j'avais gagné en vitesse, mais que j'avais perdu en confort et en sérénité. Et ça, c'était le prix à payer pour faire un bon Vendée Globe. Dans les mers du Sud, quand le bateau s'emballe et ne serait-ce que qu'il monte à 30 nœuds, déjà c'est beaucoup trop rapide. Parce que le problème du bateau qui accélère, c'est comment il va retomber dans la vague, comment ça va s'arrêter derrière. Moi, ces pointes de vitesse-là, je ne vais pas les chercher. En fait, elles s'imposent à un moment donné parce que le bateau, en fait, il s'emballe. Mais moi, je veux surtout trouver une bonne vitesse moyenne. Je ne sois pas toujours obligée de me demander comment ça va se terminer, de m'accrocher hyper solidement des fois qu'il y a un arrêt brutal derrière. Ces pointes de vitesse, c'est pour faire rêver les gens. Et puis, il y en a aussi, ils ont besoin de ça peut-être pour ressentir l'adrénaline. Mais moi, je sais que c'est juste le signe que mon bateau a un super potentiel. Et je suis rassurée par rapport à ça. Mais je ne vais vraiment pas chercher ces pointes de vitesse. Premier jour, le matin, je me réveille. J'ai très peu dormi, clairement. J'étais surexcitée. Il y avait tout qui se mélangeait, quoi. Ça y est, c'est le grand départ, le truc auquel j'ai rêvé et pour lequel je me suis préparée pendant des années. Un peu l'idée de réaliser mes rêves d'enfant, un peu le stress de partir vers l'inconnu. Enfin, il y avait tout ça qui se mêlait, mais en tout cas, ce matin-là, je me suis sentie comme, je sais pas, j'étais dans un état complètement bizarre. Je me suis jamais sentie comme ça dans ma vie. C'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait des vagues Ça montait, ça redescendait, ça montait, ça redescendait. Enfin, il y avait un océan dans moi, quoi. C'était très bizarre. J'étais peut-être dans une autre dimension. Et puis, en fait, j'étais assez rassurée par le fait que le départ allait être donné dans des conditions légères, enfin, avec du petit temps, et qu'on allait dégolfer dans des bonnes conditions, que ça allait pas être la tempête. Pour moi, c'était important vraiment que les premiers moments et la ligne de départ, ce soit un moment assez serein. Et puis, une fois que je suis partie, je dirais à partir du premier lever de soleil, là, j'ai compris où j'étais. Et là, j'ai complètement changé d'ambiance à bord du bateau. Là, je me suis dit, waouh, ça y est, quoi. Ça y est, là devant moi, c'est les mers du Sud, c'est le Cap Horn, c'est tout ça, quoi. Et là, j'ai commencé à flipper. Et c'est assez marrant parce que mes premières siestes que j'ai faites, j'avais un moment où j'étais là, mais où suis-je ? Parce que c'est souvent ça, quoi. Quand on a bien, bien dormi, on ne sait pas où on est. On sait qu'on n'est pas dans son lit, ça c'est sûr, mais on ne sait pas où on est. C'est très spécial. Et là, c'était, ah ouais, je suis sur mon bateau et je suis sur le Vendée Globe. Et il y avait une espèce de montée d'angoisse à ce moment-là. Et ça me l'a fait vraiment à plusieurs reprises, où j'étais obligée de me calmer et de me dire, bon ben, ça va, regarde, il n'y a pas trop de vent, tout va bien pour le moment. Je pense que ça a duré une petite semaine, et puis après, c'est vrai que c'est un Vendée Globe très spécial, on a eu droit à une tempête assez vite. Il s'était passé tout de suite énormément de choses, on a traversé une première tempête, et puis on a traversé la tempête Theta derrière. Et tout ça, ça m'a remis dans l'action, dans le présent. Le cap de bonne espérance, pour moi, c'est un moment où je vais bien parce que j'ai passé une descente de l'Atlantique difficile, avec beaucoup de frustration. Je me sentais pas à ma place. Je sais pas, je devais être en 15e position pendant longtemps. J'avais fait un départ qui m'a pas convenu. J'ai eu plein de problèmes techniques. Clairement, j'ai arraché mon balcon arrière. Et puis, en fait, j'ai réussi à le réparer juste avant de rentrer dans les mers du Sud. Et ça, déjà, c'était une petite victoire en soi. Et juste avant le cap de Bonne-Espérance, je reviens dans le match. Clairement, j'ai de la chance parce que les conditions le permettent. Ça n'arrive pas tout le temps. Mais là, les conditions me permettent de revenir dans le match. Et mon bateau va vite. Et là, je me dis, la course, pour moi, elle démarre maintenant, en fait. Le bateau, il a tout son potentiel. J'ai mon balcon qui est aussi solide qu'auparavant, donc je me sens toujours en sécurité à bord de mon bateau. Je suis de nouveau dans le match. Enfin voilà, tout va bien, quoi. À ce moment-là, bon, il y a quand même, j'ai un mois presque de navigation dans les pattes, mais disons que c'est un moment où il y a plein de promesses et là j'ai un peu le couteau entre les dents. Le Cap Lewin, là, c'est déjà autre chose. En fait, je suis quasiment en train de sortir de l'océan Indien. J'ai vu ce que c'était l'océan Indien, parce que Bonne-Espérance, c'est l'entrée dans l'océan Indien. Et en fait, jusqu'à Bonne-Espérance, je me disais, « Ouais, génial, les mers du Sud !» Et en fait, juste après le Cap, je comprends ce que ça veut dire l'océan Indien à cette époque de l'année. En fait, c'est une mer hyper hachée, hyper difficile, chaotique, dangereuse pour le bateau et des vents qui sont instables en permanence. C'est-à-dire que c'est des grains qui se succèdent les uns aux autres. Donc, il y a des moments où le bateau, il avance, il y a 20 nœuds. Donc là, il faut absolument mettre le Jenacar pour aller vite. Et puis, d'un coup, au moment où on s'attend à rien, le vent forcit, mais vraiment très, très, très rapidement. Ça se fait en quelques secondes. Il y a un grain qui vient d'arriver et là, le vent monte hyper fort. Et l'océan Indien, ça a été ça tout du long, quoi. Ça a été des dépressions qui se sont succédées avec des vents parfois très forts, parfois juste un peu forts, mais de manière très irrégulière. Donc, en fait, j'avais tout le temps la sensation soit de ne pas avoir assez de toile. En fait, entre les grains, j'avais l'impression de ne pas être assez toilée et de ne pas avancer assez vite. Et dans le grain, d'être 10 fois trop toilée. Et du coup, ça a joué vraiment sur mes nerfs. Et au Cap Lewin, mais je n'en peux plus de l'océan Indien. Je suis là, sortez-moi d'ici. Vivement le Pacifique. Je me dis que le Pacifique va être mieux. Je ne sais pas pourquoi. En fait, j'espère, quoi. Je ne peux faire que ça. Je suis là-bas. De toute façon, je suis dedans. Donc, je ne peux que espérer que ce soit mieux derrière. Du coup, ouais, c'est un moment où je me dis, bon, allez, t'as fait à peu près la moitié du plus dur, quoi. maintenant, ça va aller mieux. Donc, c'est un chouette moment. Et puis, le win aussi, c'est l'Australie. Même si, évidemment, je suis très loin de l'Australie, je ne vois absolument pas les côtes. Ben, je sais que je suis au sud, il va y avoir la Nouvelle-Zélande. C'est des endroits où je n'ai jamais été auparavant. Donc, j'ai l'impression de découvrir des contrées inconnues. Et je trouve ça hyper chouette. Et le Cap Horn, là, c'est le pire et le meilleur en même temps. C'est le pire parce que à ce moment-là, j'ai eu une succession d'avaries juste avant, qui a commencé le 2 janvier, et avec une grosse avarie sur ma quille. Donc, j'ai perdu du potentiel puisque ma quille ne bascule plus. Je l'ai bloqué au centre. Donc, j'ai perdu encore, je ne sais pas, j'ai perdu 30% de mon potentiel. Donc, c'est hyper frustrant. J'ai aussi eu plein d'autres avaries qui font que mon pilote automatique marche moins bien, je peux moins les faire confiance. Moi, physiquement, je suis au bout du rouleau. Ça fait 40 jours que j'ai froid, 40 jours que je vis dans le stress, que je répare, que je donne le meilleur de moi. Franchement, j'ai la peau sur les os à ce moment-là et c'est la grosse tempête. Donc, je peux même pas passer près du cap parce que je considère qu'il y a trop de vent, trop de mer, que c'est trop dangereux pour mon bateau. Donc, je décide de partir et de passer le cap à 100 000 au sud. Et en fait, en même temps, je sais que là, c'est la sortie du tunnel, que derrière, ça va forcément être beaucoup plus facile, tout va être plus facile, que à partir du Cap Horn, je fais route quasiment vers le nord. Donc, chaque jour, il fait un peu moins froid. C'est vraiment l'opposé des mers du Sud, quoi. Quand on rentre dans les mers du Sud, on descend toujours un peu plus vers le Sud jusqu'au Cap Horn. Et là, c'est le point le plus sud du Vendée. Et là, à partir de là, je sais que je vais faire que remonter. Et je vais enfin pouvoir avoir... Alors, chaud, bien sûr, ça va venir. Mais déjà, juste d'avoir une température ambiante acceptable, quoi. Donc, il y a vraiment ce truc où à la fois, c'est le pire moment parce que j'en peux plus. Et que je me dis, il ne faut pas que j'aie une avarie supplémentaire là maintenant, parce que le cap, je le passe en plein milieu de la nuit. Il y a une mer vraiment déchaînée, il y a entre 30 et 40 nœuds. Moi, je suis hyper fatiguée, donc je me dis là, il ne faut vraiment pas que j'ai de problèmes techniques. Et puis derrière, en fait, le vent se calme très vite. Je me retrouve dans une mer plate avec du soleil, parce que je n'ai pas vu le soleil depuis un moment. Du calme, le bateau qui, malgré la quille bloquée dans l'axe, le bateau il se met à foiler super bien parce que la mer au début elle est toute calme. Et là je me fais le bonheur intégral, quoi, genre un jour et demi après le cap. Et je me dis ça y est, quoi, je suis sortie de là. Je crois que c'est le meilleur moment de la course, clairement, quoi. Un truc où je peux vraiment un soupir d'apaisement.
Mercredi 18 novembre 2020. Chère Isa, petite réflexion en suivant ta course. Tous les jours, toutes les 4 heures, je me penche sur la carte et je te vois. Tu peux te vanter de nous tenir en haleine et d'être une des rares personnes à laquelle je pense en continu, 24-24. C'est sans doute cela l'endurance, ne pas lâcher. Tu marches sur ce fil de crête qui se faufile entre ménager son bateau et ses propres ressources, et pousser la machine et l'homme au fond de leur retranchement. Le talent, c'est d'avoir les bonnes chaussures en soi pour tenir, maintenir et retenir. Le désir qui pousse en avant et la petite peur qui va avec, toujours, peur de rater son désir autant que d'y accéder. Désir qui pousse, peur qui tempère, il me semble que c'est ce couple qui est à la source de toute conquête, lorsqu'il est justement équilibré. Tu trouves que parfois c'est difficile, et tu as raison. Tu t'es imbriqué dans un truc de ouf. D'ailleurs, tout le monde se demande qu'est-ce qui vous prend à vous les marins d'aller vous colter comme ça avec les éléments de mer nature, qui n'a jamais été très commode. Et quand je te disais que tu grappillais, je me suis trompée. Je te demande de me pardonner. Tu dévores. Peu à peu, tu avales les bateaux, car ceux que tu as doublés ne reprennent pas leur place. Ils restent dans ton sillage, et peu à peu, les mille et les mille vous écartent. Pas de quartier, te dis-je, et haut les cœurs, princesse rebelle. Perron hier parlait de la ligne de ta trajectoire, avec émotion, et celle de Jean Le Cam. Je n'avais jamais pensé à l'esthétique d'une trajectoire. C'est si important, une belle ligne. Ça ment toute l'intelligence du geste et de la pensée, leur accord. En couture, c'est frappant. J'ai toujours attaché beaucoup d'importance à l'harmonie des lignes, leur économie, leur pureté ou leur justesse. Je n'avais jamais pensé au sillage que la navigatrice dessine sur l'arrondi du globe, la simplicité de sa ligne et son accord avec le mouvement du support qui l'accueille. Vraiment, c'est une découverte. Depuis, je regarde ta ligne et je la trouve belle. Prends soin de toi, ma belle. Je t'embrasse fort. Françoise.
J'ai passé la nuit plus ou moins dans ma banette. Je navigue sous pilote automatique 24 heures sur 24. Je me suis allongée plein de fois. Je me suis levée plein de fois pour passer du J2. Le J2, c'est le Solène, c'est une voile d'avant pas très grande, au Jenaker. Donc j'ai roulé une voile, j'ai déroulé une autre voile. Et puis je suis retournée me coucher. Et puis à un moment donné, il y a eu un peu plus de vent, alors je me suis levée pour relâcher un peu de l'écoute, pour que le bateau il enfourne pas trop, et puis je suis retournée me coucher. Et voilà, et le matin, je suis un peu dans le gaz, j'ai un petit peu froid, donc quand je sors de ma banette, je change de vêtements, je mets les vêtements pour dehors, parce que c'est pas les mêmes vêtements pour quand je vais dans ma banette, et quand je suis à l'intérieur, et les vêtements pour dehors. Donc j'enfile mes vêtements pour dehors. Je vais sur le pont, je vérifie que tout va bien visuellement hein, depuis le cockpit. Je me prépare à manger. Je me fais un petit déj que j'ai inventé avec des algues, avec une omelette, du fromage, un truc qui tient au corps. Je prends la météo, je prends les classements, je regarde comment ça a avancé pour moi par rapport à mes concurrents, est-ce que j'ai fait une bonne nuit. Je prends la météo, ensuite je fais tourner un routage, je choisis ma stratégie, je décide à quel moment je vais empanner, voilà, comment je vais faire ma route sur 24 heures, sur quelques jours, et puis après sur 2 semaines. Si ça se passe bien, que j'ai pas trop de manœuvres à faire, je vais sûrement avoir un truc à bricoler. Donc je profite d'avoir un moment de libre pour bricoler. Et puis la matinée est passée, c'est midi, je vais me préparer de nouveau à manger. Je vais avoir à ce moment-là au moins une sollicitation de mon attaché de presse. J'ai aussi eu depuis le matin des échanges WhatsApp avec mon équipe technique où je leur raconte comment s'est passée la nuit, s'il y a eu des problèmes techniques, je leur raconte comment ça se passe. Donc je trie toutes les informations, je réponds à mon attaché de presse, je fais la petite vidéo du jour et si c'est pas la vidéo, je prends un son. Et si c'est pas un son, j'écris ma chronique, parce que chaque semaine, il faut écrire une chronique. Donc en tout cas, je passe un petit moment à raconter ce que je vis. Et puis un peu de bricolage, un peu de temps passé sur le pont à régler le bateau, une manœuvre, et puis c'est déjà le soir. Et là, c'est le soir, je prépare mon repas, je vérifie que un petit check technique du bateau, parce que la nuit, on voit plus rien. Donc, il faut être sûr que le bateau, que tout soit dans l'ordre avant la nuit pour pas avoir de soucis. Et puis, c'est reparti pour une nuit où dès qu'il fait nuit, si je peux, je vais aller faire ma première sieste. Et puis après, je vais être réveillée par un grain qui va arriver. Je vais devoir rouler ma voile, dérouler une autre voile, me faire une boisson chaude, une boisson énergisante parce que je suis complètement crevée de ma manœuvre, retourner dans ma banette, etc., etc. Et donc ça... C'est quand il n'y a pas de grosse tempête, c'est quand il n'y a pas de grosse avarie, parce qu'alors le schéma n'est plus du tout le même s'il y a une avarie. Quand il y a une avarie, ça devient la priorité. Il faut tout de suite s'en occuper, ou en tout cas, il faut diagnostiquer et décider si je peux continuer et réparer plus tard, ou s'il faut arrêter le bateau et réparer tout de suite. En fait, il y a plein de cas de figure en fonction. Et en tout cas, il y a énormément de temps passé à analyser le problème, du coup à échanger avec mon équipe technique par WhatsApp, ou par téléphone, demander de l'aide. Par exemple, mon hydrogénérateur s'arrache. Il faut que je le récupère, que je le monte à bord. Donc, pendant toute cette manœuvre, il faut ralentir le bateau. Et je le sécurise à l'intérieur. Je sécurise les fils électriques que je suis obligée de couper. Et après, je repars en mode rapide. Et ensuite, on commence à réfléchir à comment on va gérer l'énergie à bord, puisqu'il nous manque une source d'énergie. On a un moteur, 2 hydrogénérateurs, il manque 1 hydrogénérateur, donc forcément la suite ne va pas ressembler à ce qu'on a prévu. Et du coup là on commence à réfléchir pour dépenser moins de gasoil, parce que du coup il va falloir plus utiliser la génératrice. faut à la fois continuer d'aller vite, parce que je suis toujours en course, hein. Et en même temps, gérer la suite avec ce truc qui vient d'arriver. Mon bateau, déjà à l'intérieur du bateau, il fait tout noir. C'est une grotte. Il est compartimenté avec des cloisons et des petites portes qu'on peut fermer, qui sont étanches. Les compartiments, ils sont là pour la sécurité. En fait, ça fait de la flottabilité pour le bateau. Si par exemple, j'ai une voie d'eau sur la partie avant du bateau, je peux fermer mes cloisons à la sortie de la soute à voile. Et du coup, l'eau va rentrer seulement sur l'avant. Et tout le reste ne va pas être immergé. Et ça va permettre de ne pas couler. Donc, il y a des compartiments. Plus on va vers l'avant, plus il fait noir, plus ça résonne. Moins on a envie d'y aller. Parce que c'est aussi là que ça tape. Quand le bateau avance vite, je ne peux pas aller à l'avant du bateau. Clairement, c'est trop dangereux. Si je veux aller devant, il faut que je ralentisse le bateau. Et là où je passe la plupart de mon temps, c'est au milieu du bateau, à l'intérieur. Là, donc il y a une descente. C'est comme des petites marches pour rentrer à l'intérieur. À côté de ma descente, j'ai une petite cuisine avec une gazinière, tout petit camping-gaz, une bouilloire et une casserole, en gros. Ensuite, sur les côtés, il y a deux bannettes, une à tribord, une à bâbord. La bannette, c'est là où je dors. Donc, je dors à tribord ou à bâbord en fonction du vent. Et un peu plus loin devant, il y a la table à cartes. Et la table à cartes, c'est un support avec un écran d'ordinateur, un clavier, des instruments. Et le support, je peux le faire glisser sur bâbord ou sur tribord et je peux le tourner. Donc, comme ça, je peux me mettre dans mon siège de veille. Et pareil, le siège, je le mets soit à bâbord, soit à tribord, en fonction du vent. Et là, je tourne mon ordinateur et je suis confortablement assise pour travailler devant l'ordi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, toute la stratégie. Il y a beaucoup de débugage qui se fait sur l'ordinateur, sur toute l'instrumentation. Donc, c'est hyper important. En fait, sans ordinateur, on est vraiment dans la mouise. À l'intérieur du bateau, il n'y a pas de plancher, en fait. Quand je suis debout, je suis tout de suite sur la coque. Et comme c'est du carbone, ça résonne très, très fort. En fait, le bruit qu'il y a à l'intérieur, c'est indescriptible. Je sais pas combien il y a de décibels, mais c'est hyper, hyper, hyper bruyant en permanence, même quand il n'y a pas de vent. Rien que le clapotis des vagues, ça résonne très fort. Et de temps en temps, je mets mon casque anti-bruit pour écouter de la musique ou juste pour calmer mes oreilles. Et quand j'enlève le casque, je me dis, c'est pas possible. Je suis dans ce bruit-là depuis des jours et des jours et j'accepte ça, quoi. Mais c'est un endroit où je me sens bien. Je me sens, il y a tout qui est à portée de main, voilà. Il y a la bouilloire, il y a l'ordinateur, il y a la bannette, il y a tout ensemble. C'est un endroit où il fait moins froid que dehors en général. Il peut faire froid aussi, hein. surtout dans le Pacifique Sud. Mais il fait moins froid et voilà, c'est l'endroit où je viens me blottir aussi quand il y a du vent très fort, que c'est la tempête, que j'ai pas le moral et je m'y sens bien. Je suis dans l'océan Atlantique. J'ai passé le Cap Horn il y a 6 jours à peu près, je crois. Enfin, il y a quelques jours. Je suis dans ma bannette. Le vent est en train de monter très, très fort. Et là, j'entends un bruit, un espèce de gros clac. Je sais qu'il y a quelque chose qui a cassé, mais j'arrive pas à identifier si c'est du carbone, si c'est du métal. Voilà. Je sais qu'il y a un truc qui a pété. Ça a résonné dans tout le bateau. Donc, je sais que c'est grave. Mais j'arrive pas à savoir si c'est en haut ou en bas. Bah, premier réflexe, je vais sur le pont, je regarde le mât. Je vois que le mât est toujours en place. Donc je me dis, OK, bah, va falloir regarder en bas. Je vais voir le puits de quille. Et là, je comprends que le système de sécurité de ma quille a lâché. Et là, j'ai la quille qui balance. Et j'ai plus rien pour la retenir. Ça veut dire que si le bateau se met à giter, eh ben, la quille, elle va faire qu'il va giter encore plus. Elle fait l'effet inverse d'une quille normale. Normalement, elle est là pour que le bateau reste à plat. Et là, elle fait l'inverse. Là, je sais que l'histoire va changer. Que jusqu'à présent, en fait, j'étais frustrée parce que j'avais pas tout mon potentiel pour terminer la course. Mais j'allais terminer. Tandis que là, je sais en quelques secondes que ça va probablement pas se terminer en course. Donc il y a voilà, il y a tout ça d'un coup. Il y a le stress parce que je sais aussi que la tempête m'arrive dessus et que je ne peux pas y échapper. Là, elle est trop proche, il y a plus d'escape. Je peux pas partir ni au sud ni à l'est. Enfin, je peux toujours y aller, mais la tempête va me passer dessus. Je sais que a priori, je peux pas réparer. Et je me doute que je vais devoir abandonner. À partir du moment où je suis obligée d'abandonner, clairement, c'est une autre histoire qui démarre. Ça se fait très, très vite, en fait. Je sors de ma course très, très vite. Dans un premier temps, il faut gérer la tempête. Ça dure 2 jours. C'est hyper chaud. Mon bateau, à un moment donné, il se couche. Moi, je me blesse au doigt. Le pitki, du coup, il est abîmé. Donc, structurellement, je me retrouve avec un bateau qui est abîmé, là où il n'était pas encore complètement. C'est 2 jours vraiment extrêmes. Et après ça, je sais que je suis sortie du danger, du gros danger. Et après ça, je ne suis plus en course. Donc, c'est quelque chose d'autre. Enfin, vraiment, je change d'état d'esprit assez vite. Mon objectif, c'est de trouver un port pour mettre mon bateau à l'abri, pour pouvoir le réparer. Et dans un premier temps, je ne sais pas du tout si je vais continuer. Dans un premier temps, c'est juste me mettre à l'abri quelque part. Mais dans un premier temps, je fais route au nord parce que c'est là que je vais trouver des vents plus calmes. Il faut savoir que cette avarie, je l'ai eue, j'étais encore dans les mers du sud, dans le sud de l'Atlantique. Donc dans une zone assez dangereuse où les dépressions en fait circulent très vite. Donc elles arrivent, elles ne préviennent pas et en 24-36 heures, il y a une dépression qui arrive. Donc là, moi, je fais du nord pour sortir des zones difficiles météorologiquement. Et puis, peu à peu, je trouve du vent de plus en plus calme. Là où j'étais à fond, où il fallait qu'à chaque instant, je règle mon bateau, j'essaye d'aller le plus vite possible, je fasse de la stratégie. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de... Quand on est en course, on n'a pas une seconde pour soi. Et là, d'un coup, je me retrouve à devoir aller le plus lentement possible. Parce qu'en gros, pour préserver le bateau, il faut aller à maximum 6 nœuds. Donc, c'est un peu l'opposé. Je me retrouve à faire l'escargot et à avoir du temps à tuer. Ça n'a rien à voir. Et du coup, moi, je pense que je change d'état d'esprit. Pour moi, c'est important parce que j'ai envie de terminer cette histoire. J'ai surtout pas envie de rentrer en France en avion. Pour moi, c'est inenvisageable. Je veux ramener mon bateau. Je veux être toute seule à le ramener. C'est vraiment une histoire entre mon bateau et moi. Mon équipe qui est venue pour remettre le bateau en état de travail, mais vraiment d'arrache-pied pendant 12 jours. Et puis je repars avec Samantha qui est toute proche, avec qui on décide de faire plus ou moins route ensemble pour se soutenir l'une l'autre en cas de problème, parce qu'on a toutes les deux des bateaux qui sont quand même fragilisés. On est toutes les deux hors course et on a envie vraiment de partager ce moment ensemble et de... Voilà, on est passé du mode compétition au mode plutôt collaboration. Ça nous motive l'une l'autre, surtout elle qui a quand même fait le tour du monde hors course quasiment. Et puis ça nous challenge parce que du coup, moi d'abord elle est devant moi, donc je fais tout pour la rattraper. Et du coup, ce convoyage retour pour moi c'est comme un épilogue. Je suis plus dans ma course. Je suis voilà, le Vendée Globe c'est terminé et en même temps, il y a une part de moi qui est encore dans cette histoire là. Qui a du mal à en sortir ou qui a besoin d'en sortir doucement. C'est comme une transition pour boucler mon histoire. Je pense que pour mes concurrents, ça a été brutal, en fait, de terminer par un match hyper serré, de se retrouver d'un coup à passer la ligne d'arrivée et d'un coup dans le chenal des sables avec tout plein de monde et puis c'est fini, quoi. Ça se termine d'une seconde à l'autre, presque. Tandis que moi, ça a été l'opposé. Ça a été vraiment une transition douce. Et je l'ai bien vécu, ce convoyage, en fait. J'ai bouquiné, voilà, c'était l'opposé de tout ce que j'ai fait, tout ce que je ne me suis pas autorisée à faire pendant la course. Lire, parce que j'avais oublié ma liseuse, regarder des vidéos, parce que je ne pouvais pas, parce que j'étais en économie d'énergie. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait de prendre du temps pour moi. Et en fait, ce dernier morceau de parcours, je le fais pour moi, en fait. Pour moi, pour notre histoire commune, avec mon équipe, parce que pour eux, tout a été aussi dur que pour moi, en fait. Et puis pour mon sponsor, bien sûr. Et arrivé au sable, j'ai la chance d'avoir un des accueils les plus chaleureux depuis le début. Parce que j'arrive et qu'il fait beau, parce qu'il y a plein de monde à m'accueillir. Alors ça, c'est un concours de circonstances. Pourquoi ils ont autorisé tout ce monde à aller sur les bords du chenal ce jour-là? C'est peut-être mon jour de chance. Bah, c'est une fin magnifique qui, quelque part, ça répare plein de choses. Évidemment, ce qui est fait est fait. On changera pas le cours de l'histoire, mais on peut réparer plein de choses et on peut donner une orientation à ce qu'on a vécu. Et ça met un point final à une histoire qui se révèle être une très très belle histoire et que moi, en tout cas, je regrette rien. J'ai aucun regret. La mer, c'est tellement de choses. Déjà, c'est une autre dimension. On est une toute petite chose. On sait plus vraiment ce que c'est que la vie à terre. Il y a vraiment quelque chose. On bascule dans un autre univers, moi, je trouve, quand on est en mer. En tout cas, quand on est aussi loin en mer. Pour moi, la mer, c'est le bout du monde. C'est vraiment ça, le bout du monde. C'est là où je vais m'échapper. Pour moi, c'est la liberté. Et c'est un espace aussi de rencontre avec soi quand on est en solitaire. Particulièrement quand on est seul, je trouve. Parce que c'est extrême, tout est extrême en fait. On est fragile, on se sent vulnérable. Parce que celui qui a le dernier mot, c'est toujours l'océan. Je sais que j'aurai pas le dernier mot, donc voilà, moi je demande l'autorisation de passer, quoi.
Isabelle pense déjà à un second Vendée Globe, mais entre-temps, elle continue ses entraînements à Lorient, en Bretagne, son port d'attache. Retrouvez le portrait d'Isabelle sur le site du podcast womenofthesis.org. Ça y est, c'est la fin de la saison 2. On se retrouve pour une saison 3 cet hiver, mais en attendant, un nouveau projet est en cours de préparation. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter et à vouloir partager vos histoires. C'est pour cela que nous allons lancer une application qui vous permettra de partager en direct vos aventures en mer et à travers le monde. Mais cette suite ne se fera pas sans vous. Participez au projet dès maintenant et donnez-nous votre avis grâce à notre questionnaire en ligne disponible sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. On a hâte de vous entendre.